VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonjour à tous. 11h temps universel. Le nombre de Sud-Soudanais fuyant en Ouganda continue d'augmenter avec 7046 arrivants enregistrés le 13 décembre dernier selon l'Agence humanitaire des Nations Unies, OCHA. La majorité des réfugiés traversent la frontière par des points informels pour rejoindre l'Ouganda. Plus de 4000 d'entre eux ont rejoint l'Ouganda via la République démocratique du Congo. Des violences ont éclaté entre les forces rivales à Juba, la capitale du Soudan du Sud, au mois de juillet, forçant donc ces milliers de personnes à trouver refuge dans les pays voisins. En République centrafricaine, polémique autour de l'idée d'un dialogue inclusif suggéré par l'ancien président François Bozizé. Son parti politique, le KNK, soutient cette initiative qu'il trouve salutaire pour le pays. Écoutez son secrétaire général, Bertin Béa.
Si le président Bozizé est passé récemment à travers un mémorandum, c'est justement parce que nous rendons compte que nous sommes toujours dans un exercice d'auto-infantilisation et d'enlisement. Et donc, il fallait donc faire une offre politique, une proposition politique, une idée politique. Et c'est ce qu'il a fait pour que les vrais Centrafricains, comme il le dit, parce que dans notre crise, il y a des étrangers qui s'y sont mêlés. Et donc, c'est l'occasion pour, n'est-ce pas, que les Centrafricains puissent se retrouver.
Bertin Béa, secrétaire général du KNK en Centrafrique. Le pouvoir à Bangui oppose une fin de non-recevoir au projet de l'ancien chef d'État. François Bozizé, vous le savez, est en exil à Nairobi depuis sa chute en 2013 et est sous le coup d'un mandat d'arrêt émis par l'État centrafricain et en même temps sous sanction de l'ONU. Le gouvernement centrafricain se veut clair. Pour l'instant, il n'envisage pas de dialoguer avec des personnes sous sanction des juridictions nationales et international. Théodore Jousseau, porte-parole du gouvernement centrafricain.
Cela se fait à un certain nombre de conditions. Cela se fait lorsque les parties prenantes ne sont pas entachées des problèmes d'ordre judiciaire. Cela se fait lorsque les parties prenantes ne sont pas inscrites sur la liste des sanctions des Nations Unies ou bien font l'objet de poursuites au niveau de la Cour pénale internationale, au niveau de la Cour pénale spéciale ou au niveau des cours et tribunaux ici à Bangui même.
Le porte-parole du gouvernement centrafricain, Côte d'Ivoire. Les déclarations du chef d'une branche du FPI, le parti créé par l'ex-président Laurent Gbagbo, disant qu'il faut se détacher de l'image de son fondateur qui constitue un handicap, ont suscité pas mal de réactions. Certains s'interrogent sur l'avenir politique de Pascal Affi-N'Guessan et de celui du Front populaire ivoirien après la cuisante défaite aux législatives du 18 décembre. Pour 186 candidats, le camp d'Affi-N'Guessan n'a obtenu que 3 sièges. Les frondeurs du FPI avaient, eux, choisi le boycott. Écoutez l'analyse de Julien Gauze, une personnalité de la société civile ivoirienne.
Je l'aurais vu, c'est dans son autocritique et son analyse, d'abord en se remettant lui-même en cause en partie, et ensuite en dénonçant certaines insuffisances au sein du parti, avant de justifier pourquoi peut-être il prend la décision soit de rester, soit de partir, mais avant aussi décide de partir, il faut, je pense, le dire clairement, couper les amarres et s'installer à son compte, de façon à ne pas s'aliéner toute une partie de ceux qui se reconnaissent dans le président Gbagbo. Ça s'apparente à un parricide dans ce qu'on peut considérer comme une espèce de réuniment et en même temps une invitation à tourner une page, mais alors d'une façon trop tragique peut-être, d'une façon trop brutale peut-être, d'une façon trop, je me permets de dire, un peu insultante.
Julien Gauze, président de l'ONG Agir pour la démocratie, la justice et la liberté en Côte d'Ivoire. Six villageois ont été tués au cours du week-end dans l'état de Kaduna, c'est au Nigeria, probablement par des éleveurs nomades. Nouvel épisode d'un conflit de longue date pour les terres et les pâturages, selon le gouverneur de l'État et un ancien parlementaire. L'attaque contre le village de Goska, près de Kafoshan, à 170 km au nord-est d'Abuja, s'est déroulée en samedi et dimanche, malgré un couvre-feu de 24 heures imposé dans cette région en raison des incidents incessants entre éleveurs et agriculteurs sédentaires. Le premier ministre tunisien Youssef Chahed a appelé lundi à l'examen en urgence par le Parlement d'un projet de loi pénalisant le racisme. C'était au lendemain d'une manifestation d'étudiants africains dénonçant de multiples cas d'agression. Timothée Donangmaï a joint à Tunis la djiboutienne Zamzam Mohamed. chargé des relations extérieures de l'Association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie.
Récemment, il y a eu un acte d'agression sur trois étudiants de nationalité congolaise. Les étudiants se sont fait poignarder pour l'un et égorger pour deux autres. Il y a aussi eu une autre agression en plein marché sur une fille, une étudiante aussi. Nous sommes en fait scandalisés que dans la même journée, il y a eu quatre agressions et qu'un individu qui apparemment est un récidiviste, il a déjà commis le même acte il y a quelques semaines sur une autre étudiante. Et nous sommes choqués que les autorités tunisiennes laissent un tel individu se balader sur les routes sans agir, en fait. Nous sommes scandalisés. Et c'est en fait la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, dans le sens où nous autres étudiants, nous sommes victimes d'abus, que ce soit de la part de la législation, que ce soit de la part des propriétaires d'appartements, que ce soit de la part des policiers. Nous ne savons pas, en fait, ce qui se passe.
Quels sont les autres problèmes que vous rencontrez dans la vie de tous les jours?
Notre plus gros problème, c'est le problème lié aux conditions de séjour des étudiants et stagiaires en Tunisie. Nous faisons face à des abus, notamment par rapport au dépôt des cartes de séjour. Les étudiants souffrent dans le sens où on nous demande de payer des sommes extravagantes par rapport aux cartes de séjour. Une carte de séjour qui, pour le dépôt, demandait 15 dinars il y a tout au plus 3 années et qui, aujourd'hui, on nous demande de payer 300 dinars. On ne comprend pas pourquoi.
Alors, le Premier ministre tunisien Youssef Chahed a appelé à l'examen en urgence par le Parlement d'un projet de loi pénalisant le racisme en Tunisie. Qu'est-ce que cela changera, selon vous?
Nous espérons que ce projet de loi soit d'abord adopté parce que c'est un projet de loi qui est en suspens depuis, ça fait à présent 2 ans. Et nous demandons à ce que ce soit reconduit, que ce soit adopté et que ce soit passé par le Parlement. Nous nous attendons à ce que ce soit appliqué et que ça criminalise et que ça punisse les gens qui font preuve de tel acte de terrorisme. C'est du terrorisme.
Laguib Houssien Zamzam Mohamed, chargé des relations extérieures de l'Association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Le reste de l'actualité en quelques dépêches. Le premier procès à Istanbul de participants présumés au coup d'État manqué du 15 juillet s'est ouvert mardi. Aujourd'hui donc, une trentaine de policiers comparaissant pour avoir refusé de défendre le président Recep Tayyip Erdogan. Il s'agit du procès le plus important à ce jour depuis le coup d'État manqué, même si d'autres procès ont déjà commencé dans plusieurs villes de Turquie où 41 000 personnes ont été arrêtées depuis le 15 juillet. Les premières audiences doivent durer 4 jours selon l'agence de presse pro-gouvernementale Anadolu et ont débuté aujourd'hui avec la lecture de l'identité des accusés et des faits qui leur sont reprochés. Avant que ne soient entendus les arguments de la défense, ces policiers sont accusés d'avoir refusé d'obéir à des ordres leur intimant de défendre le président Erdogan la nuit du putsch manqué. L'une des boîtes noires de l'avion militaire russe qui s'est abîmé dimanche matin en mer Noire avec 92 personnes à son bord a été retrouvée. L'enregistreur des données qui a été découvert dans l'épave de l'appareil va être envoyé à Moscou pour analyse. Les enquêteurs estiment qu'une erreur humaine ou un problème technique sont vraisemblablement à l'origine du crash du Tupolev. L'ensemble des 84 passagers et 8 membres d'équipage, parmi lesquels une 60aine de membres des cœurs de l'armée rouge, sont morts dans l'accident. Des combattants du groupe État islamique ont exécuté sommairement 13 habitants de 2 villages au nord de l'Irak, dont certains s'étaient soulevés contre eux aux premières heures de l'offensive de l'armée irakienne pour reprendre Mossoul, a annoncé aujourd'hui Human Rights Watch. Ces exécutions qualifiées de crimes de guerre par Human Rights Watch ont eu lieu le 17 octobre dernier, le jour même du début de la vaste opération militaire visant donc à reprendre la deuxième ville d'Irak, dernier bastion de l'État islamique dans ce pays. Et je vous le disais en début du journal, le nombre de Sud-Soudanais fuyant en Ouganda continue d'augmenter avec aujourd'hui 7046 nouveaux arrivants enregistrés le 13 décembre dernier. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, ce sera dans 50 minutes en compagnie de Henri Francisque. Pour ma part, je vous dis bonne journée pendant qu'il est 6h10 à Washington.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.